Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans ce format totalement expérimental réalisé pour Proxy Jeux. Je vous emmène à la découverte de paris ludiques comme si vous y étiez. Je suis Cyrus et comme vous l'aurez sans doute compris, je vous emmène avec moi vers la pelouse d'Aurigny à Paris. Il est 9h45, j'approche de la pelouse d'Aurigny et on va aller voir un peu ce que donne la file d'attente à une heure assez matinale puisque le festival ouvre à 10h. Me voilà devant l'entrée, autant vous le dire, il y a un monde fou. Il y a deux files, une pour les personnes qui ont déjà leur billet, une pour ceux qui n'ont pas leur billet. Je ne pense pas qu'une file soit plus importante que l'autre. On va dire, je vois pas la fin ni de l'une ni de l'autre. Là, il fait à peu près, je pense, 26-28 degrés. On nous a annoncé la canicule pour aujourd'hui. Il est pas encore 10h et il commence déjà à faire bien chaud. La journée s'annonce difficile. Il est 10h15, j'approche assez rapidement de l'entrée depuis quelques temps. Je pense que ça a ouvert effectivement à 10h et il va falloir passer le traditionnel contrôle de sécurité et puis ensuite passer à la caisse avec un tarif unique de 6€ pour l'ensemble du week-end. Donc il faudra parier que demain il y aura beaucoup moins de monde aux caisses. Bon bah allez, je vous retrouve très rapidement à l'intérieur. Il est 10h30 et voilà, ça y est, je suis enfin rentré sur la pelouse d'Aurigny après une petite mésaventure malheureusement à la caisse parce que les consignes ne prennent pas les sacs à dos et donc moi qui comptais voyager léger et j'avais pris deux sacs, un pour le festival et un pour mes affaires, et ben me voilà réorganiser mes affaires et tout me trimballer sur le dos, et ben tant pis. Allez, on va partir à la découverte des jeux et puis aller faire un premier tour. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop de monde à l'intérieur. Je pense qu'il y a moyen de trouver des places pour jouer. Alors bon, le problème, c'est que je suis venu tout seul. Donc. Il va surtout falloir que je trouve des copains pour jouer. Bon, allez, je vais continuer mon petit tour et on va voir ce que ça donne. Premier constat arrivé au Bouli, et ben, il y a beaucoup moins de monde sur les tables. C'est assez impressionnant. Les premières tables étaient déjà quand même assez occupées et en fait si on avance il n'y a personne. Petit conseil pour les années prochaines, pensez à aller au fond quand vous arrivez parce que là-bas vous trouverez facilement des places pour jouer. Alors je vous cache pas aussi qu'au niveau des tables les gens cherchent déjà l'ombre. On voit tout de suite sur les stands les tables qui sont au soleil sont complètement dépeuplées. Pourtant, on est loin d'être au plus fort de la journée. Alors, comme d'habitude, le festival est découpé en plusieurs parties. Il y a évidemment la partie éditeur qui intéresse la plupart d'entre vous. Il y a la partie jeux pour enfants, pour les parents parmi vous. Et puis, il y a des espaces un peu plus spécifiques, un espace jeu de rôle, un espace jeu de figurines. Un terrain de molcu, on a évidemment l'espace jeu de demain pour tout ce qui est proto. Il y a des espaces tournois, un espace jeu à volonté où voilà, l'association met plein de jeux à disposition et vous pouvez venir jouer au jeu que vous voulez avec des démonstrateurs. Il y a une zone jeu en délire que j'avoue je ne connais pas. Je sais pas, j'essaierai d'aller faire un saut pour vous en parler. Les assauts, le terrain de molcu et puis évidemment la buvette, hein, l'incontournable, enfin j'espère. Au rayon des associations, ça vous intéressera peut-être, il y a un monde de jeux qui a pris un stand et qui donc vient visiblement faire des interviews, des vidéos. Donc vous devriez retrouver ça très prochainement sur leur chaîne YouTube. Petit blog, petite chaîne YouTube qui monte. Ils s'investissent vraiment pas mal, intéressant à suivre.
Bye. Donc tapage nocturne, en fait, c'est simple, c'est lorsque vos voisins organisent une soirée déguisée alcoolisée chez eux, qu'il est environ 4h du mat et qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que d'organiser un concours d'imitation. Et là, il y a une envie frénétique de les frapper qui vous prend. Et donc, le but du jeu, ça va être ça. Ça va être de les faire taire le plus rapidement possible.
Ah voilà, je sors de ma partie découverte de tapage nocturne. Bon, j'avoue, j'ai pas été très très bon à ce jeu. J'ai pas très vif d'esprit ce matin. Alors c'est un jeu de rapidité, donc effectivement, une petite bande son se lance. Un bruit retentit, c'est le bruit du personnage sur lequel il va falloir taper le plus vite possible. Et bah, il y a quelques petits twists hein, dans le jeu. C'est pas désagréable, c'est plutôt sympa. Après, je suis pas certain de la durée de vie du jeu, de la rejouabilité de la chose. C'est vrai qu'on aurait, je pense que j'aurais aimé avoir peut-être d'autres personnages pour rebrasser un petit peu les choses d'une partie à l'autre, mais bon, voilà. Mais effectivement, ça a le mérite d'être original, et ça, c'est déjà pas mal.
Donc Tapage Nocturne, c'est un jeu qui a été créé par Théo Rivière, illustré par Christine Alcouf, et qui est donc édité chez Abuse Games et distribué par Pixie Games. Le jeu est à partir de 10 ans, entre 2 et 6 joueurs, et une partie dure environ 15 minutes.
Tiens donc, il semble que le repos prod ait fait l'acquisition de Belrati. C'est un jeu qui avait pas mal buzzé à Essen, qui s'était fait remarquer dans une petite boîte avec pourtant un tout petit stand. Bah écoutez, visiblement les hommes à sombrero s'en sont emparés et sont en train d'en faire une version à leur sauce. Ils ont l'air de travailler vraiment le truc pour revoir les choses à fond comme ils ont su le faire par exemple sur Just One. Bon, bah on va attendre de voir ce que ça donnera.
Narabi, c'est un jeu coopératif qui se joue de 2 à 5 joueurs. De 3 à 5, pardon. Tellement de jeux. Et donc, devant vous, vous avez des cartes qui sont numérotées. Et le but du jeu, ça va être de les remettre dans l'ordre pour faire une suite. Pour ce faire, vous allez devoir faire des échanges de cartes. Et pour faire ces échanges de cartes, le joueur actif va pouvoir faire un échange forcément avec un de ses coéquipiers. Mais le problème, c'est que derrière chaque carte, il y a des conditions. Et ces conditions-là, vous pouvez regarder seulement les conditions des cartes qui sont devant vous. Et vous ne pouvez pas communiquer les conditions aux autres joueurs.
Narabi, jeu coopératif qui surfe un peu sur la veine des jeux coopératifs dans lesquels la communication est limitée, à la Hanabi, etc., où les informations sont partielles. Pas d'effet leader, donc ça c'est plutôt pas mal. En revanche, on est plutôt sur un truc un petit peu brain burner, un peu casse-tête. J'ai pas été très convaincu. Je suis pas certain que le jeu se renouvelle beaucoup d'une partie à l'autre, même si effectivement il y a moyen de mixer les conditions et les valeurs des cartes, etc. Pourquoi pas. C'est dommage aussi de pas pouvoir y jouer à deux. Ça limite pas mal le truc. C'était un petit format voyage, je pense que ça aurait pu être pas mal en couple, mais. Bon voilà, moi je vais passer pour ma part.
Narabi, qui est un jeu créé par Daniel Fer, c'est un jeu coopératif qui se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans et une partie dure de 10 à 15 minutes. C'est édité par Lifestyle Edition. Bueno, si. Mira quien llegó.
Sando 21. Bon allez, pour la première fois je vais tenter la buvette de PEL, Snack Buvette. Ouais, j'avoue que d'habitude je prends mon casse-dalle, mais là, pour pouvoir faire un vrai retour à Paul Gara, je tente.
Bonjour, je vais prendre un sandwich merguez et des frites, s'il vous plaît.
Un sandwich merguez
et des frites.
Et des frites.
Bon, eh ben, écoutez, c'est pas mauvais. Hein. Bon, bah, hormis que j'ai dû renoncer aux merguez, au surplis et sur le sandwich poulet. Parce que il fallait attendre 5 minutes pour les merguez, donc bon, j'ai pas trop envie. Au menu cette année, on notera quand même qu'il y avait des salades. Petit effort, et je pense que les salades vont avoir du succès aujourd'hui. Bon, ouais, je vais finir de manger, et puis après, on rattaque le festival. Eh ben, ça y est, j'ai retrouvé Fendoel. Salut Fendoel.
Salut Cyrus.
T'as bien dormi ce matin?
J'ai dormi, ouais, j'ai récupéré évidemment d'une longue semaine épuisante comme d'habitude.
Bon bah, on va pouvoir aller jouer ensemble. Allez, on est parti.
Allez, c'est parti.
Bienvenue à la Ninja Academy.
Oui.
Donc, vous êtes inscrit au cours de la Ninja Academy. Vous allez avoir un certain nombre d'épreuves, donc des épreuves collectives, ensuite des duels. Et à l'issue de toutes ces épreuves, celui qui aura reçu le plus de shuriken aura le diplôme de la Ninja Academy.
Voilà, on sort d'une partie de Ninja Academy. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Eh ben, c'est typiquement un jeu à barre. Ensuite, c'est pas forcément le genre de jeu que je préfère jouer chez moi. Mais voilà, ça saute de partout. T'en as vite fait le tour, tu feras trois parties et tu seras content. Et puis voilà, c'est pas mal.
Ouais, voilà. Bon, on s'est bien marré sur la partie quand même. Mais il faut avouer que ça donne pas forcément envie d'y revenir des tonnes de fois, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est une question de durée de vie. Ensuite, si t'aimes vraiment, c'est du pur party game, du pur jeu où tu vas faire sauter la table. Tu vas faire sauter la table, t'as des petites épreuves de pied machin. Bon, voilà, c'est ce qu'on lui demande. Je sais pas à quel prix c'est, mais si c'est moins de 15€, ça le fait tout à fait. Il y a quand même du matos.
Ouais, c'est le format boîte mini de chez Yellow. Je crois que c'est, ouais, ça doit être 13-14€, quelque chose comme ça. Non,
donc ça passe.
Ouais. C'est un peu dans le style, je sais pas si tu te rappelles, Défi, là, un jeu des années 80-90, là où tu avais plusieurs mini-jeux à l'intérieur. Enfin, ça reprend ce principe-là, mais en plus moderne, quoi.
Ouais, ça peut tout à fait être ce genre de petits trucs. Il y a plein de petites épreuves. Par contre, pour la durée, ils disent 20 minutes, à mon avis, ça peut être éventuellement plus long, quoi. T'as 4 x 8, 9, 10, 11, t'as 11 épreuves. En gros, ça veut dire que chaque épreuve dure 2 minutes. J'ai un petit peu de doute là-dessus, mais bon.
Bah, coup de chrono à l'appui, on a fait 28 minutes.
Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, bah, on est pile poil dans les... Bah, tu vois, j'avais vraiment cru le contraire. Ok, bah, si ça a paru un petit peu long, c'est peut-être pas forcément un très bon signe.
Bon, on était 4, je crois que c'est jusqu'à 6 quand même. Donc effectivement, 20 minutes, on va dire que c'est une moyenne.
Ouais, bah à 6, en plus, t'as des défis qui concernent les autres. Bah pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, tu fais le groupie.
Non, mais c'est ça en fait, faut te foutre de leur gueule ou les supporter, quoi, c'est ça.
Non, mais c'est clairement un jeu à boire. Je pense qu'avec de l'alcool, ça passe tout seul.
Allez, on va aller boire un coup.
Ouais.
Donc je vous présente Ninja Academy. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans, d'une durée approximative de 20 minutes. Donc c'est un party game illustré par Jib, et les auteurs sont l'équipe Kedama, donc Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras et Théo Rivière, édité par Yellow.
Bonjour, je vais vous prendre une pression s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. 4€ s'il vous plaît.
Vous avez un verre consigné ou collector?
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Little Town. Alors le but du jeu ici va être de développer votre ville, de récupérer le plus de points de prestige, ces jolies petites étoiles, et sans oublier de nourrir vos ouvriers, nourrir vos paysans. Point important du jeu.
On a continué chez Yellow. on est allé essayer Little Town. Moi j'en avais entendu pas mal parler sur les réseaux sociaux, plutôt en bien. Donc du coup j'ai voulu voir ce que ça donnait. Fendwell, allez, je te laisse la primeur encore. Quel est ton ressenti en sortant de la partie?
Ah, je vais faire le gars désabusé.
Encore?
Bah ouais, mais carrément. Mais je sais pas, je suis passé à côté de ce jeu, peut-être à raison. Le graphiquement c'est très, enfin visuellement c'est très beau, enfin c'est assez beau. Les meeples sont très chouettes. Le matériel est sympa. C'est vraiment un format léger. Ça fait jeu un petit peu sérieux et à la fois léger. On est, je dirais, sur du familial moins, tu vois. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a des, enfin je sais pas. Moi, je l'ai pas trouvé très équilibré. Mais c'est pas forcément parce que j'ai perdu. Attention, je tiens à le dire. Mais il y avait certains coups qui semblaient assez énormes et qui, enfin voilà, une personne a marqué 20 points d'un coup alors qu'on était tous à 20 points. Et puis et t'es là, tu fais bah ouais, ok. En gros, enfin c'est assez difficile. Et en fait, ils mettent en place, grâce à des cartes objectifs, des conditions qui font que va forcément y avoir au moins, on va dire, une dizaine de points qui va être ramené par cette carte. Et facilement, tu peux te débrouiller pour marquer plus. Donc, bah voilà, la jeune fille, elle a marqué 20 points d'un coup. Et donc, à peu près, quoi que tu fasses, c'est, t'es largué, quoi. C'est pas, voilà. Donc, y a pas forcément que ça, mais bon, ensuite, il y a une gamme assez petite. Je pense que pour des joueurs, pas forcément. En fait, le côté, c'est que ça m'a frustré de pas pouvoir construire plus, de pas pouvoir faire plus, de pas pouvoir me rattraper, tu vois, sur ces 20 points que je me suis pris dans la gueule. Et je pense que pour des petits joueurs, ça posera pas trop de soucis, mais t'as un peu l'impression que celui qui construit le château, parce que c'est le château, le bâtiment en question, celui qui construit le château, bah, il a franchement des très bonnes chances de gagner la partie. Et je trouve pas son coût si exorbitant. C'est un coût que tu peux vraiment récupérer en un tour de jeu. En un tour, tu récupères le château et tour d'après, tu peux le construire. Et je trouve ça assez fort.
Ouais, enfin, pas en un tour, en une manche, quoi.
Ouais, c'est ça.
En gros, on est dans un jeu de gestion, de placement de tuiles, où on va créer un espèce de paysage sur lequel on va récupérer des ressources. Au début, on va surtout récupérer des ressources, ensuite on va construire des bâtiments dessus, ce qui va changer un peu la phase du truc. Moi, c'est la partie que je trouve intéressante, c'est qu'on va construire un plateau commun sur lequel on va interagir les uns avec les autres, plus ou moins, pas très directement, mais voilà, on va utiliser les bâtiments que les autres ont construits, avec une notion de positionnement. Ça, c'est assez original, je sais pas non plus foufou. Après, c'est vrai que le jeu, alors tu parles de cette tuile château là qui a fait, ouais, bon, qui a fait gagner, c'est clair, la personne qui de ce que j'ai pu comprendre, c'est le tirage des tuiles est plus ou moins aléatoire, donc celle-ci elle est peut-être pas là tout le temps, et je pense que quand tu as déjà joué, tu vas faire un peu attention aussi à ce genre de trucs, quoi, et tu vas voir quelqu'un qui commence à ramasser les ressources pour le faire. Soit tu vas l'empêcher de le placer à un endroit où il va pouvoir mettre des points. Je pense que tu as des choses quand même que tu peux gérer.
Bah, là, on avait une combo avec quelqu'un d'autre qui avait un objectif où il devait.
C'était moi, ça va.
C'est ça, des bâtiments juste à côté. Et quelqu'un d'autre qui avait un bâtiment qui se dit ah bah tiens, je vais le mettre à côté de tous ces bâtiments là qui sont les uns à côté des autres. Et ça te fait 4 points par bâtiment qui sont les uns à côté des autres. C'est quand même. Enfin, non, mais effectivement, alors. Tu me dis qu'il y a d'autres bâtiments dans la boîte. Bon, pourquoi pas. Les objectifs, a priori, il y en avait juste un qui était mis de côté en début de partie quand on jouait à 4, si j'ai bien compris.
Je sais pas.
Et ouais, non, c'est ça. En gros, on avait chacun deux et il y en avait un qui était mis de côté. Et bah, donc, en gros, cet objectif-là que tu as eu, qui fait que tu vas gagner des points si tu construis des bâtiments à côté, bah, il va sortir, on va dire, 9 parties sur 10. Donc. Forcément, si le château y est, le château marque 9 points minimum grâce à cette carte objectif là. Donc, et
12.
Ouais, 3 fois 4, pardon. Non, c'est ça. Et 12 points, quoi. 12 points, bah, en gros, les plus forts bâtiments, ils vont marquer, on va dire, 8-10 points. Ah, parce que t'as des bâtiments qui te permettent de marquer des points.
Non, mais après. Non, mais après, sincèrement, je pense que sur l'équilibre du jeu, on peut espérer qu'ils ont quand même fait des parties de test et que ça doit être équilibré. Mais bon, voilà. En gros, on en ressort quand même un peu mitigé. Moi, je pense qu'il faudrait une deuxième partie pour voir.
Je suis d'accord. Clairement, une deuxième partie pour avec peut-être une autre config ou peut-être autre chose. On va peut-être pas essayer avec la meilleure config, je sais pas.
Bon, voilà. C'était Little Town.
Ouais, non, mais un peu mitigé pour ma part en tout cas.
Alors, Little Town, un jeu de Shun et Aya Taguchi, illustré par Sabrina Miramont. Un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, et les parties durent environ 45 minutes. Un jeu yellow.
Bon, voilà, on est l'après-midi. Là, je pense qu'on est à combien? On est à 36, 37, par là?
En tout cas, on est en train de crever de chaud.
Et n'empêche, ce qu'il faut avouer, c'est que je trouve que le festival est plus confortable à marcher cette année. Tu trouves pas?
Ouais, ça va.
Hein, le goudron qui fond, toi, ça le rend plus souple.
C'est clair. On est sur un tatami.
Alors, Supercat, l'affreux robot dog est entré dans la ville. Il menace de faire patte basse sur toutes les usines de croquettes. Mais heureusement pour la ville et tous les autres félins qui sont ici, des groupes de chats se sont organisés entre eux pour contrer ces plans. Vous allez faire des équipes de 5 chats et votre but, ça va être de transformer ces chats pour battre le robot dog. Donc ces chats, en fait, ils vont devenir des super cats avec des pouvoirs et vous allez pouvoir battre le robot dog.
Super cats.
Ah merde.
Bon alors super cats. Bon allez, j'entame pour cette fois.
Vas-y.
Bon bah moi donc c'est un jeu de bluff et de double guessing, pas plus de double guessing en fait. Assez épuré hein, quand même parce qu'on est vraiment juste là-dessus quoi. En gros on doit attendre son point façon pierre ciseaux feuille. Donc on crie super cats et donc à 4 on doit tous s'afficher soit à 2-0 à 5 en fait avec ses doigts. Et les chiffres identiques aux ordres de la table vont s'annuler et donc on va retenir le plus grand. Globalement, voilà, ça c'est le premier épisode où chaque joueur tente de transformer ses chats en super cats. Et un seul d'entre nous sera l'élu et aura sa team de super cats, celui qui aura réussi à retourner le plus. Et puis la deuxième phase du jeu où le super cats élu va affronter les autres joueurs qui se rangent du côté du robot cat.
Qui manipule. Non, c'est. Robodog.
Robodog. Voilà, qui va devoir contrer du coup Super Cats avec le même principe finalement. Même principe de jeu.
En fait, le joueur solo va devoir donc faire un chiffre avec les mains. Les autres, s'ils arrivent à faire le même chiffre que le joueur solo, lui inflige des dégâts. Et inversement, bah, si le joueur solo fait par exemple 5, bah, il inflige 5 dégâts à Super Robodog, pardon. Il inflige 5 dégâts à Robodog. Et voilà, donc ça peut aller très vite en. En 3 coups, Robodog peut être détruit. Et en 2 coups, Super Cats peut être détruit. Voilà, tout simplement.
Ouais, ça joue en 10 minutes. On a fait la partie, c'était 10 minutes, nous. J'en ressors pas foufou. Après, parce que personnellement, je pense pas que ce soit un jeu que je vais acheter. Cela dit, en y réfléchissant, je pense que c'est un jeu qui s'attribue, enfin, qui appartient de 8 ans, je crois, c'était. Et je pense que effectivement pour cette gamme là c'est plutôt pas mal dans le style épure double guessing. Je pense qu'on est pas mal pour les familles en fait quoi.
Ouais, clairement c'est un jeu hyper interactif, une interaction permanente. On n'a pas de temps mort, on est tous on joue tout le temps, même si on a été éliminé à la première manche, bah au final on va jouer le méchant, donc on revient, on se réincarne un grand méchant. C'est un peu la vengeance de par rapport à la première manche. Et puis ensuite gameplay ultra simple. On a juste pas tout à fait, enfin on n'a pas totalement tout dit. Il y avait un petit twist au début pour la transformation des chats. Plus on va mettre des chiffres élevés, plus on va avoir le tour d'après un malus. Et plus on va mettre des chiffres bas, plus on va avoir des bonus. Donc il y a des petits retournements de situation assez imprévus qui sont assez sympas. Bon, ensuite c'est pas un jeu avec lequel tu vas faire 500 parties, c'est sûr, mais je pense que un petit jeu à boire et j'ai préféré vraiment au Ninja Academy. pour lesquels je trouvais les temps morts, finalement, en comparaison avec celui-là, il y a plus de temps morts dans ce Ninja Academy, pour lequel on avait des duels 2-2, et donc des moments où les autres ils font pas grand-chose. Et là, on est tout le temps dans la compétition les uns envers les autres. Donc voilà, c'est de ce côté-là, c'est plutôt réussi pour moi.
Ok, la conclusion, c'est plutôt pas mal.
Ouais, et puis j'aime bien les illustrations. Je les trouve. Il y a les petits chats. Bon, ça fait vendre les petits chats. C'est pas du tout quelque chose qui me touche, honnêtement. À titre perso. Mais je trouvais les illustrations quand même sympas. Avec un côté manga, mais vieux manga, genre un peu manga des années 80, je trouve. C'est assez, assez marrant. Bref, je vous invite à y jeter un coup d'œil.
Et ben merci. Allez, on continue.
Super Cats, édité par Gre Games, et du coup écrit par Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Nicolas Houry, Théo Rivière, et illustré par Nayad. C'est un jeu qui joue de 3 à 6 personnes en 15 minutes à peu près, et c'est à partir de 8 ans.
On est en plein après-midi, on doit frôler les 37-38 degrés dans ces eaux-là, et je vous laisse deviner quel est le stand le plus prisé du festival. Oh là là, on passe devant le stand de Super Meeple. On voit des plateaux qui souffrent de la chaleur. Enfin, j'espère que c'est juste la chaleur, quoi. Parce que le plateau de couleur de Paris, il gondole fort, fort, fort. Il est carrément incurvé. Je pense que demain, ils ont des bols.
Ouais, je sais pas. C'est possible que ça se rétracte, tu vois. À la fin, ça va choper ta main dès que tu veux mettre un cube dessus.
Donc, dans Compagnons, la peste noire a complètement ravagé le royaume. Il reste quelques petits villages épars, mais où il n'y a presque plus personne. Et du coup, chaque joueur possède un village et va essayer d'attirer les différents villageois qui se retrouvent tout seuls perdus dans ce vaste royaume pour créer le village le plus prospère possible. Voilà, le village le plus riche à la fin de la partie a gagné.
On sort d'une partie sur le stand Gigamic de Compagnons. Alors c'est toi qui m'as traîné là-bas. Tu connaissais ce jeu d'où, Fanuel?
Alors c'est une très bonne question. J'avais vu des... comme d'habitude sur Twitter, je pense que j'avais vu des gens qui étaient intéressés pour par le jeu. Voilà. Mais j'en sais pas plus.
parce qu'apparemment il a une édition précédente de je sais pas où. Enfin, j'ai vu ça sur BGG du coup en rentrant en partie. Mais je me suis pas renseigné plus que ça. J'espérais que tu saches.
Non mais il avait un bon retour, et puis visuellement il est assez j'avoue qu'il m'avait aussi intéressé parce qu'il avait un look un petit peu catchy avec un fond assez blanc et puis des petits personnages assez simples qui fait, c'est pas vraiment du pixel art, mais ça a un côté je trouve assez simpliste dans le graphisme qui pourrait s'apparenter à une sorte de pixel art, et je trouvais ça très chouette.
Ouais, c'est pas du pixel art, c'est ces dessins, c'est sans contour en fait. C'est les dessins sans contour, donc les personnages sont un peu. Graphiquement, j'ai pas aimé. Hein. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas beau, quoi.
Ouais, non, mais c'est un goût, hein. Y a pas de problème. Moi, j'ai trouvé ça chouette.
Et alors, le jeu, quand même, pour en parler, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est assez technique. Ça fait penser à des jeux comme Innovation, Cardorum, que tu as cité quand on jouait, ou des trucs, la Race Force of Galaxy, un peu combo. En gros, c'est des cartes qu'on va devoir enchaîner les unes avec les autres. Il y a des systèmes de chaînage. Donc c'est des personnages qu'on va poser au fil de l'eau et qui vont évoluer en quelque sorte jusqu'à nous offrir beaucoup de points de victoire, parce que c'est ce qu'il faut faire finalement, c'est des points de victoire, quoi.
Ensuite, en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a une interaction très forte, c'est-à-dire que je la trouve forte. Ne serait-ce que tu vas faire attention à ce que les autres construisent, tu vas voir que telle personne, si tu construis dans cette famille là, tu vas devoir lui payer une sorte de taxe, donc ça va lui rapporter des points en plus, Et donc on se retrouve tout de suite à une interaction qui est... Si, l'interaction est quand même présente, quoi. Tu regardes un œil, tu jettes un œil sur ce qu'il y a sur les autres. Ensuite, c'est notre première partie, donc on n'est pas forcément autant... autant alerte là-dessus, mais je suis sûr que dans une partie et on a fait une partie à 5, ce qui est pas forcément la meilleure configuration en plus pour une première partie et pour voir ce que font les autres, mais à 2, à 3 ou à 4, à mon avis ça se fait en deuxième partie, d'autant plus, ouais.
Non mais enfin, je suis d'accord avec toi qu'il y a une interaction, il faut regarder ce que les autres posent comme personnage, parce qu'effectivement en gros il faut que tu payes certains personnages s'ils sont présents. S'ils sont présents chez toi, tu les payes aussi, mais c'est la banque qui te paye, donc du coup t'as tout intérêt à les avoir, et s'ils sont pas présents, tu peux quand même poser, mais tu payes à la banque. Du coup c'est moins, ça avantage pas les autres joueurs. Donc il faut faire attention à ça, mais c'est la seule interaction qu'il y a, plus la rivière.
Bah la rivière, ouais, voilà, j'allais dire la rivière, sinon sur les cartes, donc proviennent d'une rivière qu'on va vider au fur et à mesure et qui va se remplir et qui va déclencher des décomptes de fin de partie. Donc on a joué une dizaine de tours à peu près, quelque chose comme ça.
Ouais, je pense moins que ça en fait, hein. Ça va assez vite en nombre de tours.
Raison, ouais. C'est vraiment, si vous avez vraiment aimé la gloire de Rome et innovation, c'est vraiment ça, c'est du bouillibouillage de cartes dans tous les sens. Bon voilà, c'est assez plaisant, c'est plus mon genre de jeu en tout cas par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui.
Ouais, moi ça m'a titillé, ouais. C'est technique et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais. Je retends très bien une partie à l'occasion et c'était un tout petit format, donc c'est pas impossible que je l'achète, et je pense que ça se joue bien à deux à mon avis. Deux ou trois, je pense que c'est les meilleurs configs.
Alors à voir, alors c'est assez rigolo parce que la configuration c'était de 1 à 5 joueurs. À 2 t'avais des règles différentes et à 1 t'as des règles encore différentes avec des événements qui te perturbent. Donc c'est voilà, enfin ce que nous racontait l'animatrice. Par contre, j'ai pas eu le temps de lire les règles là-dessus.
Ouais, je sais pas quelles sont les variantes à deux, effectivement. Ouais. En revanche, j'étais dernier et j'ai quand même eu l'impression de subir pas mal. En fait, bah oui, non, on a fait 3 tours en fait. Parce que toi, t'as joué premier et il y a eu que.
4 tours.
Bon, en tout cas, j'ai jamais été premier. En tout cas, j'ai jamais été premier.
T'as jamais été premier, bah alors il y a eu 4 tours exactement. Maintenant, c'est le nombre de tours.
C'est court.
Et donc effectivement, ouais, le jeu à mon avis est clairement plus adapté à 4 joueurs dans ce cas-là, pour au moins que tu sois premier, au moins le dernier tour.
Ouais, j'ai l'impression de subir parce qu'en fait quand on pose les personnages, il y a ce système où on paye les autres. Et du coup quand t'es dernier à poser, tu profites pas de ceux qui de la pose des autres au même tour. Alors que quand t'es dernier, tu vas payer les autres. Donc là je me demande, moi j'aimerais bien faire un tour du côté de la règle en anglais, parce que je me demande s'ils ont pas voulu simplifier, dire l'ordre du tour est dans un sens machin truc, le joueur passe à gauche,
bon,
et en fait
on extrapole, hein, non, on va ouais. voir un peu.
Non, mais bon voilà, c'est un sentiment sur une partie, hein, voilà. On est là pour ça, on débrief à l'arrache.
Ouais, ouais. Ouais, non, mais voilà, mais pareil, très bon retour, peut-être que je le prendrai effectivement, si c'est une toute petite boîte, c'est vraiment un truc accessible, donc c'est intéressant. C'est un pas si petit jeu que ça, hein. Faut vraiment. Il y a pas mal de règles et faut se plonger un petit peu dedans, mais voilà, on est sur du familial plus, même plus.
Ouais. Non, on est sur de l'expert en fait, là, je pense.
Ou de l'expert moins, mais.
Ouais, non, c'est un jeu quand même, c'est un jeu costaud. Il faut pas se fier à la taille de la boîte, quoi. Quand tu vois la taille de la règle, alors oui, il y a les variantes de joueurs, machin, mais il y avait une vingtaine de pages de règles, alors c'est des petits.
Bien illustré ouais. aussi, donc ouais.
Mais ça fait peur quand même.
Ouais, non.
Voilà, ouais, c'était Compagnon.
Ouais, très sympa.
Compagnon de Hakon Gardner, on va le prononcer à la française, 12 ans et plus, 1 à 5 joueurs, environ 45 minutes, chez Gigamic.
Bon bah voilà, Fendel a dû me laisser, il est reparti chez lui, donc me voilà tout seul maintenant à errer sur Paris Ludique.
Space Explorer, vous allez participer à la conquête spatiale. Vous êtes tous responsables d'une division d'un centre de développement spatial. Le centre de développement spatial est au milieu. Les divisions, c'est chaque joueur. Et vous allez devoir recruter des ingénieurs pour développer votre division afin de soit réussir des projets spatiaux, donc en construisant des satellites et tout ça, soit en développant à fond votre division pour gagner des points de victoire. Celui qui marque le plus de points de victoire gagne la partie.
Space Explorers. Alors, effectivement, un Splendor-like. Complètement, alors c'est exactement les mêmes actions que dans Splendor. Alors, si vous avez déjà joué à Splendor, vous n'allez pas du tout être dépaysé. C'est un niveau au-dessus quand même. Il y a plus de choses à gérer. Une rivière qui rend peut-être les choses un peu plus aléatoires qu'à Splendor. Bon, ce sera confirmé sur plusieurs parties. Ça m'a pas déplu parce que moi je suis plutôt un amateur de Splendor. On peut pas dire que le thème se ressemble beaucoup plus dans Space Explorers. En revanche, en termes au niveau graphique, je pense que c'est vraiment un niveau largement au-dessus aussi. C'est quand même beaucoup plus chouette. D'ailleurs, on notera que le nom de l'illustrateur n'est même pas marqué sur la boîte, c'est un peu dommage. On le retrouve quand même dans les règles, mais j'avoue que je ne m'en rappelle pas. Ceux qui ont aimé Splendor mais qui cherchent un truc un peu plus compliqué, peut-être que plutôt que de se tourner vers une extension, Space Explorer va renouveler peut-être un peu plus ce truc. J'ai pas essayé les extensions de Splendor, mais ça peut être une alternative. Ça peut être une alternative, disons, plutôt que d'aller acheter une extension, se tourner vers Space Explorer. Voilà, donc moi ça m'a pas déplu. Maintenant, est-ce que je l'achèterai? Ça fait quand même de bon avec Splendor, hein. Il y a quand même pas trop à dire, quoi. Voilà, pour les gens qui n'ont pas aimé Splendor, on en avait un à la table qui n'aimait pas Splendor et qui a trouvé celui-ci plutôt chouette. Ça reste du bouillibuitage, plutôt plaisant. Ouais, je reste sur une note plaisante, on va dire, mais je pense pas faire l'acquisition du jeu.
Alors, voici donc Space Explorer, un jeu de Yuri Dzuralev édité par Blam. C'est 20 à 40 minutes pour 12 ans et plus pour 2 à 4 joueurs.
Là, il y a un stand avec des gens bizarres. J'ai le droit de dire ça? Bah, en fait, ils sont en train de se taper dessus et en même temps, ils jouent aux échecs. Apparemment, ils appellent ça le chess boxing. Je sais pas, visiblement, c'est des rondes de quelques secondes et puis après, ils retournent s'asseoir. Oh, je vous raconte pas là. Ils doivent mourir de soif, les pauvres. Et je pense qu'ils prennent plus de temps à boire qu'à jouer leur coup. Encore des gens qui se tapent dessus. Moi qui croyais que le jeu de société était un loisir plutôt sain. Ah voilà, c'est des gens qui se tapent dessus à coups de sabre. C'est le stand de Ludisport, le Lightsaber Combat Academy. Je sais pas si je le dis très bien. Les gens qui se battent à coups de sabre laser, issus de Star Wars, sans aucun doute.
C'est le festival de Cannes, mais le film, en fait, dans les années 60, on va devoir reconstituer un film avec des bouts de pellicule, parce qu'à cette époque-là, c'était des pellicules mises dans des bobines. Et là, en fait, toutes les bobines se sont mélangées. Il faut reconstituer le film Poule-Poule, avec Cocotte en star. Évidemment, on ne connaît que la chute du film, à savoir un scénario digne d'Hollywood. Le film s'arrête quand il y a 5 œufs de disponibles dans le poulailler. Attention, j'ai pas dit que c'était très évolué comme scénario. Donc, je suis le maître poule-poule, je vais égrener des cartes. Et en fait, en égrenant les cartes, on va devoir compter le nombre d'œufs qui sont disponibles dans le poulailler. Quand un œuf arrive tout seul, il est disponible. Mais si, un peu plus tard, je pose un bout de pellicule avec une poule, le poule va faire son boulot de poule, va couver l'œuf. Donc l'œuf ne sera pas disponible. Si un peu plus tard, on a un renard qui arrive, le renard va faire son boulot de renard. Comme c'est un film tout public, on va dire qu'il va chasser la poule. Et l'œuf sera de nouveau disponible. Ok ?
On sort d'une partie de poule-poule, c'est vraiment un jeu qui joue sur la rapidité et puis la mémoire. Il va falloir se rappeler de la succession de cartes qui s'enchaînent et puis aussi avoir une bonne vue sur les règles qui ont été mises en place, parce que les règles on va pouvoir les changer. Elles vont changer au fur et à mesure, alors soit on les fait évoluer, soit on peut les faire redescendre, etc. Enfin, ça peut aller un peu dans tous les sens, en fonction du joueur actif qui va définir comment la manche va se jouer. Et puis il y a une assez grande variété de cartes, on peut même finalement inventer ses propres règles, tout en restant dans un cadre donné par le jeu, hein, mais les effets des cartes, on peut tout à fait en inventer, quoi. C'est plutôt intéressant sur cet aspect-là, l'aspect un peu liberté autour de tout ça. Un petit côté flux dans le côté règle mouvante. plutôt pas mal. Après, c'est un jeu qui aura peut-être pas une durée de vie non plus folle dans le temps, je veux dire, d'année en année. Je suis pas sûr que ce soit un jeu qu'on ressort régulièrement. Mais c'est un jeu qui fait penser un peu à ces... à un jeu pour l'été, en vacances, pour un groupe d'ados, ça me met à partir de 8 ans. Effectivement, c'est un âge raisonnable pour le jeu. Et à conseiller pour un groupe d'ados en vacances qui va s'enchaîner des parties... ou alors, bah, entre adultes, je pense que ça peut vite tourner au jeu à boire. Ouais, c'est drôle. En tout cas, ça met une ambiance sympa autour de la partie. En plus, bon, on avait un animateur qui était plutôt doué aussi dans le style. Voilà, je pense pas que ce sera un jeu dont je ferai l'acquisition personnellement, mais c'est un jeu que je peux recommander en fonction du type de joueur. Ouais. Voilà, donc cool.
Alors déjà ça c'est un jeu qui s'appelle Poulpoul qui sortira mi-juillet dans toutes les bonnes boutiques, édité par Okaluda. C'est un jeu de Charles Bossard illustré par Pauline Berdal à partir de 8 ans, de 2 à 8 joueurs en sachant qu'on peut en intégrer beaucoup plus. C'est pour une durée de 20 minutes environ, voilà. C'est un jeu qui est composé d'une cinquantaine de cartes et de jetons punch en forme d'œuf.
Au revoir.
À l'année prochaine.
Maman, c'est enfin, après on a pu rattraper.
Bien voilà, c'est la fin de Paris Ludique 2019, en tout cas pour moi. Il reste encore quelques temps pour ceux qui sont encore sur place. Mais écoutez, c'était un Paris Ludique cette année qui était un petit peu rapide pour moi, parce que j'ai fait, on va dire, une grosse journée unique seulement. Du coup, j'ai pas essayé des masses de choses, hein, comme vous pourrez le comptabiliser par vous-même, puisque bah, je vous ai fait un petit débrief très rapide de l'ensemble des jeux auxquels j'ai joué. Donc pas d'énormes coups de cœur, hein, même si y a plutôt des choses qui m'ont intéressé. En conclusion, bah, peut-être que ce qui m'a plus titillé au final, ça doit être, je pense que c'est Compagnon. Après, ouais, des petites sensations sympas sur Super Cats, sur Poulpoul quand même. Je pense que c'est un jeu à retenir malgré tout. Voilà, bah écoutez, c'était mon pari ludique 2019. Le mien, très personnel. J'espère que je vous en ai fait profiter un tout petit peu. Et puis, bah, on se retrouve peut-être pour un autre format de ce type si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, jouez bien!